enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Si on pose cette question à l'homme de la rue, et même parfois aux chrétiens, on serait surpris des réponses qu'on obtiendrait. Certains penseraient d'abord à leurs problèmes personnels. Ce qui est important pour moi, c'est mes problèmes personnels, c'est de régler mes problèmes personnels. D'autres vous diront, bien, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait la paix sur la terre. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait moins de pollution, que nous arrêtions de polluer la terre, etc. On pourrait citer un tas de choses. Bien sûr, la Bible n'est pas contre toutes ces choses. La Bible nous parle d'un homme qui était riche. Dans Luc chapitre 12, Jésus nous parle de prend cette image de cet homme riche. Luc 12, verset 18. Et pour cet homme qui était riche, ce qui était important pour lui, c'était de construire des greniers plus grands afin de pouvoir amasser une récolte encore plus grande. Dans Luc chapitre 10, nous avons une rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Et pour Marthe, eh bien, ce qui paraissait important, c'est de s'occuper d'abord des choses de la maison. Et elle s'agitait, nous dit la parole de Dieu, de gauche et de droite, pour beaucoup de choses. Alors qu'une seule chose était vraiment nécessaire, et Marie, sa sœur, l'avait compris, c'était d'écouter Jésus, de rester à côté de Jésus, de vivre avec lui. Ce qui est important, ou ce qui compte le plus, nous allons le voir ensemble dans la parole de Dieu. Je vous propose d'ouvrir avec moi dans le livre des Galates, au chapitre 6, verset 14. Galates 6, verset 14. Nous lirons simplement deux versets. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Paul nous dit que ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est de devenir une nouvelle créature. Est-ce que vous êtes persuadé de cela? La chose la plus importante de notre vie, c'est de devenir une nouvelle créature. Et seul en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Maître, comme Christ ressuscité d'entre les morts, eh bien, nous permettra de devenir une nouvelle créature. Tous les hommes se trouvent dans l'une ou l'autre des deux créations. Nés dans le monde, nous sommes pécheurs et incapables de nous sauver nous-mêmes et nous sommes condamnés à cause du péché. Le péché là, il est latent, il nous accuse. La nouvelle création n'est pas une amélioration de l'ancienne vie. C'est un changement radical de vie. Un changement radical. Beaucoup de personnes pensent que l'essentiel, c'est d'être bon, c'est d'être droit, c'est d'être serviable, d'être des modèles. C'est vrai que ces choses sont bonnes, mais on ne peut pas les atteindre si nous ne devenons pas une nouvelle créature. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est bien sûr la résurrection de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est que dès aujourd'hui, nous pouvons ressusciter et nous pouvons devenir des nouvelles créatures. Nous pouvons devenir nous aussi des nouvelles créatures et ressusciter à nouveau. Comment devenir une nouvelle créature? Aujourd'hui, nous fêtons un temps extraordinaire, la résurrection de Jésus. Amen. La résurrection de notre Dieu, bien sûr, elle a été annoncée par les prophètes et cela aussi doit être pour nous un encouragement extraordinaire. C'est que les prophètes ont annoncé la naissance, la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ bien avant que cela n'arrive. Dans la parole de Dieu, dans les textes anciens, nous voyons ces prévisions qui se sont accomplies. Et ça réjouit mon cœur de voir combien que la parole de Dieu s'accomplit strictement à la lettre. Et Jésus lui-même a annoncé sa mort. Il a prédit ce qui lui arriverait. Il a prédit aussi sa résurrection. Et c'est arrivé. C'est extraordinaire de voir. On a le privilège en Europe, en tout cas sous nos latitudes, de vivre la période de la résurrection au moment où la nature est en train de revivre et d'exploser. Et cette année, c'est particulièrement vrai. On est passé brutalement du très froid au chaud. Et en 8 jours, on voit les arbres qu'on croyait morts pendant plusieurs mois exploser littéralement. Et ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Moi, j'aime bien observer la nature. Je suis très proche de la nature. Et je me dis, voilà, la résurrection, c'est comme ça. La résurrection nous rappelle en tout cas cela, bien que je crois que notre résurrection céleste sera beaucoup plus belle encore. Mais il y a eu des obstacles à cette résurrection. Le diable, lui, l'ennemi de nos âmes, ne voulait pas bien sûr que cette résurrection ait lieu. Et la Bible nous parle au travers de divers passages, les obstacles qui étaient là pour empêcher justement la résurrection de Jésus-Christ. Pour l'intelligence humaine, absolument tout s'opposait à la résurrection de Jésus, à la mort de Jésus. La Bible nous dit qu'on l'a mis dans un linceul, on l'a encerclé, on l'a entouré d'un linge et on l'a couché dans un tombeau. En plus, devant ce tombeau, on a roulé une grosse pierre qu'on a scellée par-dessus le marché. Et puis, en plus de cela, ça suffisait pas, on a mis des gardes devant le tombeau. Tout s'opposait à la résurrection de Jésus-Christ. On a tout fait pour qu'elle n'arrive pas. Mais rien n'arrête la puissance de résurrection. Amen. Rien n'arrête la puissance de résurrection et c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous êtes épatés par la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Rien n'arrête la puissance de résurrection. Rien ne pouvait s'opposer à la puissance de Dieu. Aucun obstacle. Rien. Les bandelettes se sont affaissées, nous dit la Bible, lorsque les deux disciples, qui alertés par les femmes, sont venus dans le tombeau, se sont rendus compte que le corps n'était plus là, les linges étaient là, les bandelettes étaient là, le linceul était là, mais le corps de Jésus n'était plus là. La pierre avait été roulée. Qui avait roulé la pierre? Et puis alors, il y avait les gardes. Les gardes, la Bible nous dit que les gardes étaient terrorisés. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 4. Pour moi, ici, c'est très agréable, il fait nettement meilleur, merci. Jésus a donné de nombreuses preuves infaillibles de sa résurrection. La première preuve a été le tombeau vide. Le tombeau était vide. Nous pouvons lire cela dans divers évangiles. Et personne n'a pu prouver le contraire jusqu'à présent. Personne n'a pu prouver le contraire de la résurrection de Jésus. Personne n'a pu montrer le cadavre. Vous pouvez chercher aujourd'hui sur toute la planète, vous ne trouverez aucune tombe dédiée à Jésus. S'il y en a une, mais elle est vide. Et on peut la visiter en Israël. Le tombeau est vide. Sur la porte du tombeau, il est écrit « Il n'est plus ici, il est ressuscité ». Amen. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Deuxièmement, il s'est laissé toucher. Jésus s'est laissé toucher après sa résurrection pour démontrer que son corps était fait bien de chair et d'os. Il n'était pas un esprit, il est réellement ressuscité. Luc 24, versets 39 à 40. Jean chapitre 20, 27. La Bible me dit aussi qu'il a mangé avec ses disciples. Il a mangé et bu dans d'autres passages de Luc 24. Et puis il s'est présenté. Il s'est présenté à un grand nombre de témoins qui l'ont vu simultanément. Et vous pouvez lire ça dans les évangiles et même dans les actes. Jésus s'est manifesté dans son corps de résurrection pendant 40 jours, nous dit la Bible. Et la Bible me dit qu'il s'est fait voir à plus de 500 personnes, pas seulement à ses 12 disciples les plus proches. Plus de 500 personnes ont pu le voir, ont pu discuter avec lui. La résurrection de Jésus est incontestable, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire aujourd'hui. Même ses ennemis ont été obligés de constater sa résurrection, et ça aussi c'est formidable. On peut lire ensemble ce texte dans Matthieu chapitre 28, verset 11. Ces quelques versets sont intéressants. Et ces versets nous démontrent que ses ennemis ont dû attester la résurrection de Jésus. Matthieu 28, verset 11. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. C'est un gros problème pour les sacrificateurs. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Normalement, ces soldats-là, à l'époque, si effectivement ils avaient dormi pendant la garde, ils passaient tous à la casserole. Mais là, on a toléré que... Pour cet événement spécifique, on a toléré que les soldats s'étaient endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, nous dit la Bible. Et lorsque je vais en Israël et que je discute avec des Juifs qui sont convaincus, lorsque l'on parle de Jésus et lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, eh bien c'est ce discours que l'on tient encore aujourd'hui. La Bible dit vrai. On dit oui, mais c'est les amis de Jésus qui sont venus en cachette le prendre. Ils se sont attaqués aux gardes, ils ont bâillonné les gardes, ils les ont ligotés, ils ont pris le corps et puis on l'a fait disparaître. Voilà le discours qu'on entend. C'est un discours qui arrange bien des personnes. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Le thème de mon message aujourd'hui est le suivant. Ce qui importe aujourd'hui. Un jour, un des responsables religieux juifs vient voir Jésus en secret. Il était interpellé par ce que Jésus faisait. Il se rendait bien compte que Jésus avait une autorité et une puissance qu'il n'avait jamais vue et que les religieux, que les chefs du peuple n'avaient pas. Il avait une connaissance de la parole de Dieu qui dépassait largement celle que les scribes et les pharisiens pouvaient avoir et les religieux de l'époque pouvaient avoir. Et il est venu de nuit vers Jésus et il engage une discussion avec le Seigneur. Et Jésus va lui dire quelque chose de très important. Il s'agit bien sûr de Nicodème. Voilà ce que dit Jésus à Nicodème. Et on peut prendre ce texte ensemble dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Après cette discussion, Jésus dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répond, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Nous avons une démarche à faire. Nous avons une démarche à faire pour, naître de nouveau. La première démarche, c'est d'accepter Jésus dans son cœur. Et ensuite, ça va plus loin. Ensuite, il nous demande de faire alliance avec lui. Et dimanche passé, nous nous sommes réjouis pour tous ces jeunes, toutes ces personnes qui sont entrées dans les eaux du baptême et qui, par cet acte, ont fait cette alliance avec Dieu. Ils se sont engagés à accepter Jésus-Christ et à faire alliance avec Dieu. Ils sont, par là, devenus de nouvelles créatures. Et je suis heureux moi aussi d'être devenu une nouvelle créature, mais plus que cela, il nous faut être baptisés du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit rentre dans nos vies, alors la vie change complètement. La vision des choses est différente. Nos priorités sont différentes. Notre amour pour les gens, notre amour pour les perdus prend une toute autre dimension. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes ressuscités. C'est le commencement du processus de la résurrection. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, à cause de son acte incroyable à la croix que Claude nous a si bien décrit vendredi. La croix. Pour Paul, la croix, nous l'avons lu tout à l'heure, la croix était l'endroit, la chose la plus importante. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans passer par la croix, nous ne pouvons pas devenir une nouvelle créature. Ce qui importe, ce qui est le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Alors, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, je fête aussi ma résurrection. Je fête ma résurrection, mon changement de nature, l'attestation que Dieu met dans mon cœur qu'un jour, je le verrai face à face. L'attestation que Dieu met dans mon cœur que je vivrai éternellement. Jésus est capable de transformer des hommes mauvais et d'en faire des hommes bons. Il transforme des esclaves du péché en fils de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Oui, on peut avoir des façades, on peut avoir un aspect très religieux, mais Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est pour cela que Paul disait que la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Pour les Juifs, à l'époque, c'était tellement important, on ne pouvait pas concevoir qu'un incirconcis pouvait avoir une relation avec Dieu. Et Paul dit, ça n'a aucune importance. Aucune. Ta religion n'a aucune importance devant Dieu. Ce qui est important, c'est ta relation. Ce qui est important, c'est la communion que tu peux avoir avec ton Seigneur. Jésus n'a jamais prêché la religion et dans la Bible, vous n'entendrez jamais parler de religion. Jamais. Par contre, Dieu nous invitera à avoir une vraie relation avec lui. Dans le livre, deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il y a ce verset encourageant qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il y a un principe fondamental dans nos vies, nous sommes invités à devenir des nouvelles créatures en acceptant Jésus-Christ et nous pouvons devenir des nouvelles créatures en acceptant Jésus-Christ dans nos vies. Mais nous restons ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et il y a un combat terrible en nous entre la nouvelle créature et l'ancienne créature. Et c'est un combat permanent qu'il y a là tout au long de notre vie. Il y a, c'est vrai, des périodes de notre vie où nous pensons que rien ne pourra nous empêcher de progresser, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et tout d'un coup, notre vieille nature, la chair, reprend le dessus. Et il y a ce combat permanent qui est là. Et tant que nous avons les deux pieds sur la terre, nous aurons à lutter contre ce combat. Je le disais l'autre jour, quelqu'un disait que le croyant a deux natures, la vieille qui pousse à faire le mal et la nouvelle nature qui fait la volonté de Dieu et qui cherche la volonté de Dieu. Et cette personne posait la question, c'est laquelle des deux qui l'emporte? Et il conclut en disant, eh bien c'est celle à laquelle nous donnons le plus de nourriture. Et j'aime cette phrase. C'est celle à laquelle nous donnons plus de nourriture. Alors nous devons veiller de quoi nous nous nourrissons. Je ne reviens pas là-dessus, Claude en a parlé, Samuel en a parlé dimanche. Mais veillons sur nous. Veillons sur nous, veillons à ce que eh bien, nous restions toujours proches de Dieu. Ne nous salissons pas. Ne nous salissons pas avec les choses qui font du mal et aux choses qui permettent à l'ancienne nature de reprendre le dessus. Romains chapitre 6, verset 8, nous pourrons prendre ce texte ensemble. Romains chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais dans ce texte, alors si on s'arrête à la dernière phrase, on peut se dire, moi je suis sous la grâce, je suis plus sous la loi. Ce texte nous montre quand même que nous devons nous battre contre notre propre chair. C'est pas parce que je suis sous la grâce que je peux faire ce que je veux. J'ai à me battre contre ma propre chair. Je suis devenu une nouvelle créature et il y a un combat entre ma vieille nature et ma nouvelle nature. Celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, eh bien, ne connaît pas ce combat parce qu'il n'y a pas deux créatures en lui. Il n'y a pas une nouvelle, une ancienne. Il reste dans son ancienne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons comme ennemi notre chair. Notre chair. Il existe un zoo, je ne sais pas si c'est en France, j'ai lu ça dernièrement, où vous entrez dans le zoo et puis on a mis un endroit spécifique où on mettait les animaux les plus dangereux. Et puis il y a un panneau qui annonce cette zone. Attention, vous entrez dans une zone où vous allez rencontrer les animaux les plus dangereux de la planète. Voilà, toutes sortes d'animaux. Il y a des lions, des tigres, il y a des reptiles également. Et puis au bout d'un moment, il y a une cage. Puis vous voyez rien. La cage est vide. Et au fond de la cage, il y a un miroir. Et au-dessus de la cage, c'est marqué « Et c'est ici le plus dangereux ». Vous avez compris qu'il s'agissait de l'homme, bien sûr. L'homme qui regarde dans le miroir. C'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité physique aussi. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que constater les dégâts qu'est capable de faire l'homme sur la terre, la création de Dieu. Mais en réalité, c'est une vérité spirituelle également. Nous sommes dangereux pour nous-mêmes, pour notre âme, notre chair est dangereuse pour nous-mêmes. Parfois, notre chair nous pousse même à essayer de nous détruire. Elle nous pousse même à essayer d'ôter notre vie. Et malheureusement, parfois, des gens y arrivent. Alors que la vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Voyons ensemble maintenant un autre point. Que produit la nouvelle naissance? Eh bien, d'abord, elle va produire une transformation intérieure. Je ne suis plus la même personne. Nos valeurs et nos priorités vont changer. Avant, peut-être, tu étais attaché à des choses foncièrement terrestres. Peut-être étais-tu attaché à l'argent. Peut-être étais-tu attaché à autre chose. Je ne sais pas, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement de choses qui prennent le dessus dans nos vies. Mais en ayant reçu cette nouvelle nature, en étant devenu une nouvelle créature, les priorités changent. L'argent ne devient plus la valeur fondamentale de ma vie. Au contraire, j'ai compris que lorsque Dieu m'en donnait, eh bien très vite il allait mettre sur mon chemin des personnes qui en avaient beaucoup plus besoin que moi. Et j'ai compris que si Dieu me donne de l'argent, c'est pour aider d'autres personnes. Et dans la mesure où je peux le faire, c'est une joie de le faire. Et chaque fois, je bénis le Seigneur. J'ai fait des dizaines d'expériences dans ce domaine et je me réjouis chaque fois. Vous savez, j'ai constaté qu'on ne peut rien donner à Dieu. Rien. Il nous rend toujours les choses. Dès qu'on lui donne quelque chose, il nous le rend. Je reçois quelque chose, je me dis, Seigneur, maintenant, je me demande à qui, eh bien, cela est destiné. Je crois que nous devons nous, nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne. Il pourvoit nos besoins, nous dit la Bible. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il a changé nos priorités. Il a mis en nous un amour nouveau. Un amour nouveau pour des personnes. Des personnes qui, peut-être, avant, ne me paraissaient pas sympathiques. Aujourd'hui, je les aime. Non pas par ma volonté, mais parce que simplement Dieu m'a donné une nouvelle nature. Il a transformé mon être intérieur. Et cette transformation intérieure va produire, bien sûr, une transformation extérieure qui va produire des signes visibles. Des gens vont être complètement transformés par le fait, et je crois que c'est normal, par le fait d'être devenu une nouvelle créature. Je rencontrais quelqu'un l'autre jour qui me disait « Je ne comprends plus mon père, il est complètement transformé. » Parce que ce père avait simplement fait un retour vers Dieu et il avait constaté, eh bien, il était revenu vers Dieu et son fils, un de ses fils, avait constaté que ce père avait complètement changé. Je ne comprends pas ce qu'il a, il est tout joyeux, il est rayonnant, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est les signes visibles de ce que Dieu fait à l'intérieur d'un cœur qui est devenu, eh bien, une nouvelle créature. Et puis, la nouvelle créature va produire une influence sur notre entourage. Et vous savez ce qui va se passer? On va faire envie aux gens qui nous entourent. Les gens qui nous entourent, les gens qui travaillent avec nous, tout doucement vont avoir envie de ce que nous sommes. Ils vont vouloir devenir pareil que nous. Et alors, le témoignage est facile. C'est simple de répondre simplement aux questions qu'on nous pose, plutôt que d'aller vers les gens et leur dire, tu sais, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Vous avez déjà essayé ça? Vous avez gagné beaucoup d'âmes comme ça? Ça m'étonnerait. Par contre, quand les gens viennent vous dire, qu'est-ce que tu as? Tu es toujours joyeux. Pourquoi tu réagis comme ça dans telle et telle situation? Moi, je me serais énervé. Toi, tu restes calme. Tu es dans la paix. Tu es dans la sérénité. Et alors, c'est facile de leur dire, oui, mais moi, je ne compte pas sur mes forces. Je ne compte pas sur les hommes. Je compte sur Jésus-Christ. Amen. Faire envie. La nouvelle créature va faire envie. Elle produit également l'assurance du salut et le fait d'avoir notre maison préparée au ciel. Vous réjouissez de cela?
Amen.
Alléluia. Un jour, il y avait une femme qui était couchée sous des grabats. Ça se passait aux États-Unis. Elle vivait dans une pauvreté extrême et elle était en train de mourir. Et son voisinage a fait venir le médecin. Et puis, quand le médecin est arrivé, cette femme était au bout du rouleau. Et puis, le médecin s'approche d'elle et faiblement, elle entendait « Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur. » Et le médecin était intrigué. Il se penche vers cette femme et lui dit mais comment pouvez-vous bénir Dieu alors que vous vivez dans cet endroit aussi sordide et que votre souffrance est extrême? Et elle lui dit, Toubib, tu vois pas que je suis en train de déménager? Tu vois pas que je suis en train de déménager? Est-ce que vous réjouissez de déménager? Moi, je me réjouis de déménager. On a dit à un vieillard, il n'y a pas si longtemps, « C'est bon de vous voir dans le pays des vivants. » Il sortait d'une mauvaise grippe. Alors le vieillard a dit, « Oh, moi, je ne suis pas dans le pays des vivants, je suis dans le pays des mourants. Mais bientôt, je vais être dans le pays des vivants, des vrais vivants, ceux qui ne s'éteignent plus. » Le cœur de cet homme était prêt. Est-ce que le mien est prêt? C'est une question que je peux me poser. Ou est-ce que l'éternité... Est-ce que la mort me fait peur? Est-ce que la mort me fait peur? C'est une question qu'il faut se poser sincèrement. Si la mort me fait peur, je crois alors que j'ai un problème dans ma relation avec Jésus. J'ai un problème dans ma nouvelle créature, avec ma nouvelle créature. Je voudrais conclure en rappelant que la seule chose qui importe, c'est donc que nous soyons nés de nouveau. C'est la seule chose qui est importante. Nés de nouveau. Nés de nouveau, Nous le pouvons que à cause de ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est un jour de fête extraordinaire pour moi. Pâques, c'est le plus beau jour de l'année. C'est vraiment l'espérance unique. Oui, Noël, c'est merveilleux. Jésus s'est fait homme, il est venu sur la terre. Mais Pâques, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là où le diable croyait gagner, il a tout perdu. Définitivement tout perdu. Quoi que l'on puisse dire. Alors, la seule chose qui importe, c'est que nous soyons nés de nouveau et que nous soyons rentrés dans ce processus de la résurrection. Moi, je crois que le processus de la résurrection commence aujourd'hui. C'est pas quand je serai mort. Il a déjà commencé, le processus de la résurrection. Je suis ressuscité avec Christ. La Bible me le dit, je suis ressuscité avec Christ. C'est tellement merveilleux de sentir la vie de Christ en nous. Alors, n'attendons pas d'être vieux pour saisir l'important. Parfois, je rencontre des gens qui disent, vous savez, pasteur, j'ai encore le temps pour le Seigneur, pour le bon Dieu. Hein. Je crois en Dieu, mais j'ai encore le temps. Mais c'est dommage. C'est dommage de ne pas profiter du processus de résurrection aujourd'hui. Il est là, ce processus qui te donne la joie, l'assurance, la vie éternelle, le bouillonnement. La vie avec Christ est une vie pétillante. Ce n'est pas une vie austère, triste. Non, mais souvent les gens caricaturent. On caricature la vie de chrétien comme une vie monastique. C'est l'inverse, c'est une vie pleine de feu, bouillonnante. N'attendons pas d'être vieux pour servir le Seigneur, pour nous donner à lui. N'attendons pas. C'est un missionnaire un jour qui était dans un village où... c'est un pionnier dans ce village et puis il annonçait la parole de Dieu. Et il était en train de parler avec un vieux chef de village. Et puis il lui parlait des 10 commandements. Et ce vieux chef l'écoutait attentivement. Et puis au bout d'un moment, ce vieux chef lui dit, « Mais alors, si je te comprends bien, je n'ai plus le droit de voler la femme de mon voisin. » Alors le missionnaire lui dit, « Oui, c'est ça. Je n'ai plus le droit non plus de lui prendre ses bœufs, son bétail. » Oui, c'est ça, tu as compris. Je n'ai plus le droit non plus de faire des embuscades et de tuer mes ennemis. Voilà, c'est ça. Et ce vieux chef de dire, eh bien voilà, ces choses-là, je ne peux plus les faire parce que je suis trop vieux. Alors être chrétien, c'est être vieux, c'est ça? Être chrétien, c'est pas être vieux. Être chrétien, c'est saisir la puissance, la joie, l'autorité que Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, nous donne et de partager avec force et puissance ce que Dieu nous a donné. Et plus nous vivrons cette nouvelle nature en nous, plus nous l'alimenterons, plus elle deviendra réelle dans nos vies et dans nos corps, plus nous allons voir la puissance de Dieu se répandre au milieu de nous et nous nous réjouirons de voir des signes, des prodiges qui accompagnent la nouvelle nature. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous attendez à cela? Voulez-vous aujourd'hui nourrir votre nouvelle nature pour ceux qui ont reçu cette nouvelle nature? Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette nouvelle nature, aujourd'hui est une occasion de dire au Seigneur, moi je veux aussi ressusciter avec toi et acquérir cette nouvelle nature. Ressuscité avec Christ. Je suis aujourd'hui ressuscité avec Christ. Un homme né de nouveau aura peu à peu toutes les qualités nobles que l'on peut espérer dans l'humanité. Est-ce que vous croyez cela? Avec nos propres volontés, on va essayer d'améliorer des choses et puis viendra un événement, une occasion qui fera voir que notre ancienne nature est toujours là. On se mettra en colère. Pour une raison X ou Y, on va se laisser emporter. Peu à peu, eh bien, l'homme né de nouveau aura toutes les qualités qu'un homme, qualités nobles qu'un homme peut espérer, des qualités que tant de gens cherchent désespérément sans jamais pouvoir les atteindre. Seule la nouvelle naissance est capable de produire des miracles dans les vies. Amen. Seule la nouvelle naissance est capable de donner des miracles, de nous permettre de vivre des miracles dans nos vies. Je voudrais simplement terminer par un verset qui est une promesse. Le verset 8 de Romains, du livre des Romains. Le verset 11 du chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 11. Il nous est écrit ici, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. On répète ce verset. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alléluia. Quelle promesse extraordinaire. Alors moi je me réjouis. Moi je me réjouis pour la fête qu'on va faire ensemble dans le ciel. Vous aimez la fête? Vous aimez la fête? La bonne nouvelle, c'est que quand je lis ma Bible, le nombre de fêtes que Dieu a décrété dans la parole, c'est extraordinaire. Alors je me dis, Seigneur, toi, tu es un Dieu qui aime la fête, et ça va être une sacrée bamboula quand on va être là-haut ensemble. Aujourd'hui encore, Israël est le pays où il y a le plus de jours de congé. Parce que Dieu a décrété des temps de fête obligatoires pour son peuple. Même si c'est un peuple qui travaille beaucoup, il y a une grande productivité, pour parler moderne aujourd'hui, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de fêtes officielles. Et c'est le pays où il y a le plus de jours de congés officiels. Pourquoi ? Parce que Dieu aime la fête. Il aime que ses enfants se réjouissent. Il n'est pas venu pour nous mettre un joug sur nos épaules. Il est venu pour nous donner la joie. Jésus nous dit « Soyez toujours joyeux ». Alors je conçois que parfois c'est difficile, parfois il y a des épreuves qui viennent nous atteindre, mais Dieu nous a donné, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature par la puissance de son Esprit, il nous a donné une nouvelle force qui nous permet d'espérer en lui dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Et alors nous pouvons devenir des hommes, des femmes heureuses et heureux. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'aujourd'hui ce soit vraiment un jour de fête complet. Pour ceux en tout cas qui sont déjà ressuscités avec Christ, et pour ceux encore qui disent dans leur cœur, eh bien moi je veux aussi devenir une nouvelle créature. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.